Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. RMC Estelle Midi.
Midi 5 sur RMC et on va démarrer avec l'actualité du jour et c'est bien sûr la mobilisation contre la réforme des retraites. Hier, partout en France, il y avait 3,5 millions de manifestants selon la CGT, 1,3 million selon le ministère de l'Intérieur. Une mobilisation qui a suscité de nombreuses réactions, à commencer par celle de Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics. Il était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin.
Il y a eu une mobilisation réelle, une mobilisation du même ordre que celle qu'on a connue dans les précédentes journées de mobilisation. Effectivement, la France n'a pas été complètement à l'arrêt. Alors j'ai lu dans la presse aujourd'hui que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement. Moi, je pense surtout que c'est une bonne nouvelle pour les Français. Et je pense que ce qui serait à genoux, si on mettait l'économie française à genoux, c'est nos usines, c'est nos entreprises, c'est les salariés, c'est les travailleurs.
Alors Rémi Barré, on attendait une France à l'arrêt hier, c'est ce que nous avaient promis les syndicats en tout cas, est-ce que ça a été le cas?
Alors tout dépend évidemment de quel point de vue on se place. Du côté des syndicats, pas de doute, la journée du 7 mars a été une réussite, elle restera même historique en termes de mobilisation. L'intersyndicale avance plus de 3 millions de manifestants à travers toute la France, c'est du jamais vu au regard des 40 voire même des 50 dernières années, c'est ce que dit Laurent Berger, le leader de la CFDT qui avait les larmes aux yeux hier. Le ministère de l'Intérieur a lui dénombré 1 280 000 personnes dans les rues. C'est légèrement plus que lors de la dernière journée de mobilisation du 31 janvier. Pourtant, du côté du gouvernement et de l'Élysée, on estime avoir évité le pire. Les syndicats avaient promis une France à l'arrêt. Ce n'a pas été le cas. La France a tourné au ralenti, tout comme les transports, mais il n'y a pas eu de paralysie. Le taux de grévistes était même en légère baisse hier par rapport à la journée d'action du 19 janvier dernier, que ce soit à la SNCF, à la RATP ou dans l'éducation nationale. En fait, tout dépend désormais d'un élément, le temps. La suite de ce mouvement de grève reconductible, s'il va se durcir ou au contraire, s'il va s'essouffler.
Alors, cette mobilisation d'hier a-t-elle été un succès ou un échec? C'est la question qu'on vous pose et je me tourne vers vous, Fred Hermel.
Cela a été une belle mobilisation, mais pas ce qu'on nous avait promis. Par rapport à ce qui était annoncé par les syndicats, réclamé par les syndicats...
Personne ne donnait de chiffres.
Non, enfin, je reprends les termes. La France à l'arrêt, l'économie par terre, enfin, il faut voir les chiffres. Non, ça n'a pas été le cas. La France a fonctionné hier. Je suis désolé, le taux de grévistes n'est pas énorme. Les manifestations, étaient importantes, mais pas plus que les précédentes. Mais surtout, on nous prévoyait
un
que c'était
plus,
le...
Un peu plus, un peu plus.
Oui, mais c'était le grand jour. C'était le 7 mars, c'était... Ils avaient tout misé là-dessus. Et d'ailleurs, lors de la dernière manifestation, qui était un samedi, qui avait été vraiment pas un succès du tout, ils avaient dit, ouais, mais les gens se préparent pour le 7 mars.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Sauf que 7 mars, non, ça n'a pas été le grand soir, même si c'était dans la journée. Donc, en plus, je pense qu'il y a un problème de chiffres. Je vois, par exemple, moi, je lis la Voix du Nord. Je pense que l'exagération des chiffres est telle que ça dessert les syndicats.
Oui, mais là si t'as 3,5 millions selon la CGT, 1,3 millions selon la police,
il faut faire confiance. Moi, je fais confiance à la Voix du Nord, qui est le journal. Simplement,
ils ont
très intéressant.
Ils ont
écouté
eux-mêmes.
Je peux terminer.
Non, mais il faut appeler des cabinets.
Non, mais écoutez, s'il vous plaît. La CGT annonce 100 000 manifestants à Lille.
Oui.
La CFDT, qui est dans les mêmes manifestations, annonce entre 40 et 50 000. Oui. Et la Voix du Nord qui a compté, la Voix du Nord, 12 930.
Mais il y a un problème.
À un moment, je veux dire, 12 930 manifestants à Lille, je suis désolé, grande ville de gauche, enfin, je veux dire, c'est un bastion. Enfin, c'est encore le Parti Socialiste qui dirige. C'est un bastion, etc. 12 930, je suis désolé, c'est pas le grand soir. Donc, non, je vais même aller plus loin. Ils peuvent en faire 10 encore comme ça, ça va rien changer.
C'est bien le problème. Et hier, on avait un syndicaliste qui disait qu'effectivement, quelle que soit la manifestation et l'ampleur de la manif, ça n'aurait rien changé. Mais pour vous, ça a été quand même un succès, Loumire Laprès. En tout cas, ça s'est plutôt bien passé malgré quelques incidents. Mais, mais voilà, on a vu encore des personnes mobilisées quand même.
Moi, j'ai été hier à Paris et franchement, c'était une très belle mobilisation aussi.
Parce que quand on est sur place, on sent l'énergie des gens. Moi, j'étais dans le cortège climat et il y avait beaucoup de jeunes, mais il y avait tout type de professions. Et ça, c'est, je trouve, ce qui est extraordinaire de cette mobilisation, c'est que autant les marches climat, on est beaucoup de jeunes, les marches féministes, on est beaucoup de femmes, et les gilets jaunes, il y avait un peu de tout. Mais là, il y avait vraiment toutes les composantes de la population française. Et j'ai trouvé que c'est ça qui est très, très fort, parce qu'en fait, ça nous rappelle visuellement ce que tout le monde essaye de dire, c'est-à-dire que l'immense majorité des Français sont contre cette réforme, n'en veulent pas, et que...
Mais là, si t'as 1 300 000 personnes dans la rue, on est 65 millions en France, donc c'est quand même une minorité, tu vois.
Oui, mais alors, déjà, tout le monde n'a pas la capacité de se mobiliser, de faire grève de manifester.
Bah c'est pour ça que ça marche pas.
Mais alors, donc là, on en vient à la vraie question. Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. C'est bon, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Et voilà.
Et je pense qu'il faut décaler la focale sur... On nous demande beaucoup ce que nous, on va faire, mais moi, j'aimerais demander au gouvernement ce qu'il a prévu de faire, en fait.
Ah ben rien, parce qu'il a passé sa réforme.
Mais ça, donc ça, c'est un vrai problème, parce que quand on nous dit il faut rester sage... Moi, je suis la première à dire que... Et c'est pas pour rien que je m'inscris dans un mouvement de désobéissance civile non violente, que la casse, c'est horrible. Il y en a eu hier, c'était un vrai problème, et on l'a dénoncé. Très peu, mais quand même trop. Mais quand même trop. Et moi, quand je vois une poubelle qui crame, ça me choque. Mais donc, du coup, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent pour faire quelque chose?
Il faut ouvrir la quelle est l'urgence du gouvernement à faire quelque chose? Puisque de toute façon, ça casse pas, c'est plutôt bon enfant.
Un mouvement démocratique
semble... Oui, mais là, tout le monde semble résigné, de toute façon. Qu'est-ce qui va se passer?
Le mouvement démocratique, celui du gouvernement, ça se passe à l'Assemblée aussi.
Exactement, Pierre Rondeau.
Oui, après, si on reprend les mouvements sociaux passés, notamment, je pense, au CPE, contrat première embauche, ou même plus récemment, le premier projet de réforme des retraites à point en 2019, on n'avait pas eu 3, 4, 5, 10, 15 millions de personnes dans la rue, et pourtant, ça a été abandonné.
Donc, c'est non, ça n'a pas été abandonné. Je permets, il y a eu plus de... c'était historique à la SNCF, il y a eu 4 semaines, et à la RATP, 4 semaines de grève. Le projet il devait passer au 49.3. Et il y a eu le Covid.
Il y a eu le Covid. S'il n'y avait pas eu le Covid, il serait là.
Il a pas été abandonné. Il a été abandonné, si tu veux.
La nouvelle monture n'est pas un système à points qui, effectivement, moi le premier, commence à dire que c'est plus pertinent de mettre à point que l'actuelle réforme.
Même ceux qui critiquaient en 2019, c'est finalement
ce qu'il y a. Et le CPE en 2006, il y avait au plus haut pic du mouvement social. Hier, on a dit 800 000 selon les syndicats à Paris. Ils étaient 1 million.
Mais des affrontements quotidiens.
Des affrontements violents et quotidiens.
Et c'est plus facile de retirer le CPE que la réforme des retraites.
C'est vrai aussi. Mais c'est pas une question de nombre, de quotas, de stock de gens dans la rue que le gouvernement va, oui ou non, reculer, amender. Non, il le fait.
Si c'était la flûte morte, le gouvernement pourrait réfléchir.
Et Fred, je me permets seulement de reprendre tes propos au sujet de... On nous annonçait la France morte le 7 mars. C'est pas vraiment ce qui a été dit. C'est à partir du 7 mars. Et à partir du 7 mars, ils ont décidé une grève reconductible. Ils ont annoncé le mars rouge, par exemple. Si effectivement le mouvement prend de l'ampleur, en tout cas se maintient dans la durée, et qu'on a tout le mois de mars arrêté, peut-être comme tu l'as dit à ce niveau-là, mais en tout cas arrêté. Moi, je pense notamment, pour donner des cours à l'université, le centre Tolbiac à Paris bloqué, et il va être bloqué toute la semaine. Si demain on annonce
c'est bloqué.
C'est un exemple. Je ne prends pas ça comme l'élément novateur et central de la réflexion. C'est un exemple que j'ai par rapport à moi. Est-ce que je vis? Ce que je veux dire, c'est que aussi, si j'en crois les offres qui circulent dans la presse au propos d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron semble dire qu'il s'en fout du mouvement social. Il semble dire qu'il passera quoi qu'il arrive la réforme, parce qu'il doit apparaître comme un président réformateur. Et s'il recule, pour lui, ce sera un aveu d'échec.
Alors, on est avec Thomas, qui est chef d'entreprise dans le bâtiment, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Thomas.
Oui, bonjour à tous.
Thomas, vous avez manifesté hier?
Oui, tout à fait.
Vous étiez où?
Du côté de Marseille.
D'accord.
J'ai passé une bonne partie de l'après-midi là-bas. Et voilà, ça fait plaisir de voir la France comme ça. Qui se mobilisent, qui est des gens qui se mobilisent pour l'avenir de la France et qui se mobilisent pour les gens qui ne peuvent pas se mobiliser.
Voilà.
Je voudrais déjà apporter mon soutien à tous les chefs d'entreprise dans ce moment difficile où c'est des moments très durs pour les chefs d'entreprise, forcément, et sachant en plus le prix des matières qui augmente, tout ce qui est très dur, voilà.
Et l'énergie.
Mais voilà, l'énergie et tout ce qui suit, voilà. Mais bravo aussi aux jeunes qui se mobilisent pour l'avenir de leurs parents, pour l'avenir de leurs grands-parents et leur avenir. Il faut le souligner parce qu'on ne le souligne pas assez. Parce qu'on dit souvent, les jeunes, ils se mobilisent, mais la retraite, c'est dans 50 ans. Mais c'est bien qu'ils se mobilisent. Au contraire, il faut pas casser le truc. Les jeunes, ils se mobilisent et c'est très, très bien. c'est pour leur avenir aussi. Et moi, je trouve ça très bien. J'aimerais juste dire que les nos pays voisins nous soutiennent énormément. Les populations bah,
ils peuvent vous soutenir, eux, ils sont à 65, 67 et peut-être bientôt 70 ans.
Exactement, vous avez raison. Les pays voisins où ces réformes elles sont passées nous disent de rien lâcher parce qu'on est un symbole en Europe. Des derniers pays qui ne se laissent pas dicter par l'économie des grandes entreprises qui nous mettent à genoux.
Il y en a aussi qui se moquent de nous. Hein.
Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est... Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci, il faut l'entendre et voilà.
Mais vous, Thomas, moi, j'entends.
Cet espoir est mobilisateur, surtout.
Mais j'entends ce que vous dites, Thomas, sur la mobilisation. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'auditeurs qui disaient que ça s'était extraordinairement bien passé. Lumière le disait aussi, l'ambiance était géniale, etc. Une fois qu'on a dit ça, vous êtes mobilisé, peut-être plusieurs fois, Thomas, mais aujourd'hui, vous n'avez pas avancé d'un iota. C'est-à-dire que aujourd'hui, le gouvernement, il veut faire passer sa réforme, qu'elle soit bonne ou mauvaise, d'ailleurs. Là, vous dites quoi? Vous dites, bon, bah écoutez, on a fait hier, c'était super, mais maintenant, ok, on abdique. De toute façon, on va pas se mentir, hein, dans trois mois, plus personne ne parlera de cette réforme des retraites. Elle sera passée. Et ce sera réglé.
Comment? Sauf si le mouvement se poursuit. Le CPE avait été voté à l'Assemblée, le mouvement s'est poursuivi, a été abandonné a posteriori, donc c'est possible que ça arrive.
Thomas, vous dites ça aujourd'hui?
Moi, je pense que c'est pas en une journée qu'on peut faire évoluer les choses quand aussi autant de choses vont mal. Voilà. Je pense vraiment que M. Macron, il doit essayer de rassurer le peuple comme il l'a fait. En rassurant Mbappé. Il a été capable de rassurer Monsieur Mbappé sur un terrain de foot, il n'est pas capable de rassurer le peuple. Non mais sans déconner, mais il faut le dire quand même. Monsieur Macron a été élu pour servir le peuple, pas pour le desservir quand même, non?
Oui, mais enfin, il n'est pas élu pour faire des lois en fonction des sondages. Encore une fois, par exemple, si on prend la peine de mort, aujourd'hui, vous avez 52% des Français qui sont favorables à la peine de mort.
Mais 90% des Français qui sont contre la réforme des retraites. Donc,
oui, voilà.
Oui, ils ont voté pour lui.
Excusez-moi, Macron a été élu pour ne pas faire barrage républicain à Marine Le Pen. Mais non, donc du coup, c'est le même débat. L'argument selon lequel il aurait un mandat du peuple, je veux dire, on se rappelle quand même que le mec n'a pas été élu à 70% au premier tour. Et c'est parfois ce qu'il essaye de nous faire croire. En fait, non. On a été dans une situation
pour faire tout ce qu'on demande les Français.
Non, pas du tout. Mais il a quand même été élu dans des circonstances qui sont très particulières face à une leaduse de l'extrême droite contre laquelle la totalité des Républicains, y compris, je le rappelle quand même, hein, la NUPES et la gauche dans son ensemble se sont mobilisés pour l'élire. Lui-même a dit le jour même, je sais que j'ai été élu dans le cadre d'un barrage républicain et ça m'engage.
Sauf que son projet, c'était la réforme des retraites.
Ouais, mais en fait, il avait le choix entre faire quelque chose qui unifie le peuple, parce qu'en fait, des choses qui mettent tout le monde d'accord dans ce pays, il y en a. Hein. On n'est pas des espèces de harpies qui veulent être dans la rue. Les gens qui perdent une journée de travail et qui font grève, ça les fait chier. Hein, pardon, mais on est en pleine inflation, on est en contexte de guerre, on vient de se taper 3 ans de Covid. Des choses qui mettent tout le monde d'accord dans ce pays, il y en a. Est-ce qu'il était obligé de faire sa réforme des retraites? Non.
Non, mais alors.
Et bah alors voilà. Bah qu'est-ce qu'il fout? Moi, c'est la question
sur le timing. Peut-être, mais à un moment, il faut quand même les retraites. Il va falloir les réformer. Tu le sais très bien.
Mais alors,
voilà, et c'est pas tant pour les gens qui ont 70 ans aujourd'hui que pour les gens qui en ont 30.
Moi, je pense qu'il y a d'autres priorités que réformer un système qui peut-être en 2030, dans un scénario sur 4, va être déficitaire. Ce qu'on sait à 100% c'est que il y a des enjeux de justice sociale, de justice fiscale, de justice climatique. Ça, par contre, on est sûr que c'est là tout de suite. La sécheresse, c'est dès maintenant, c'est aujourd'hui.
On est d'accord avec toi, mais là, pour le coup,
bah ouais, mais qu'est-ce qu'on fait?
Oui, mais c'était la réforme centrale, en tout cas, sa promesse centrale de campagne. Notre invité sur ce débat, c'est Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes. Bonjour Dominique.
Bonjour Estelle.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. On se pose la question aujourd'hui, cette mobilisation d'hier, est-ce que c'est un succès ou un échec? Vous dites quoi, vous, aujourd'hui?
Écoutez, très franchement, c'est un succès, mais pour une raison très simple. C'est que nous avions 15 jours entre les deux manifs, et on fait au-delà du 31. Donc les vacances n'ont pas changé la mobilisation et on voit bien que l'ensemble de la population est contre cette réforme. Vous aviez interrogé un patron tout à l'heure, un employeur, et en plus cette réforme, elle est protéiforme, elle a à la fois des ouvriers, des employés, des cadres, des patrons qui sont dans la rue. Donc on voit bien que c'est l'ensemble de la France qui se mobilise contre cette réforme. Il faut que le gouvernement entende maintenant.
Oui, mais il va faire quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi, le gouvernement?
Ben, le problème, c'est que, très franchement, la négociation, dès le départ, la concertation, pardon, on nous a dit que ça sera 64, 65 ans, point barre.
Oui.
Si on est vraiment dans la concertation, on laisse les chances à la négociation et conservation.
Mais excusez-moi, Dominique Corona, l'âge moyen de départ à la retraite en France, c'est 63,6 ans. Donc c'est sûr que si vous dites, tiens, on va faire une réforme à 63 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas de réforme. Là, déjà, 64 ans, dans les faits, c'est pas beaucoup de mois à travailler. En plus, même si ça embête les Français, ça, on est entièrement d'accord. Mais si vous voulez, Emmanuel Macron, s'il commence à dire, bah, écoutez, on ne change pas l'âge de départ à la retraite, bon, bah, il ne fait rien, quoi. Dans ces cas-là, il enlève sa réforme.
Pourquoi faisons-nous une réforme? Est-ce qu'on fait une réforme pour emmerder les Français, pour les punir, ou est-ce qu'on veut faire une réforme pour qu'elle soit utile? C'est ça la vraie question. Et est-ce qu'elle est utile aujourd'hui? Alors, en 2023...
Ah bah aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, non. Mais dans quelques années, j'imagine que oui.
Alors, vous imaginez que oui. Alors, déjà, on imagine. 2027, on nous dit 12,5 milliards d'euros. Je prends le chiffre du gouvernement. Ouais. Est-ce que nous avons les moyens de proposer des solutions pour que ces 12,5 milliards d'euros, on les comble? Oui. C'est ça la différence entre...
Oui, mais par exemple, si vous pensez à la taxe sur les super-profits, peut-être que cette taxe sur les super-profits... Non, mais admettons, il y aurait ça. Peut-être qu'elle serait plutôt utile pour nos hôpitaux, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, alors justement, je vais vous prendre un exemple. Je ne suis pas un économiste. Prenons un exemple très simple. François Bayrou, au commissaire au plan, lui, il propose d'augmenter d'un point les cotisations sociales à l'employeur. 8 milliards d'euros.
Bah vous avez raison, parce que les employeurs, ils sont pas assez taxés en ce moment. Là, on vient d'avoir un chef d'entreprise qui dit qu'il s'en sort plus. On parle pas que de Total et d'LVMH.
Autre exemple, vous avez des cotisations familiales sur les hauts salaires avec une baisse chaque année. Sacha Houille, président de la commission des lois de la majorité, propose d'annuler ces baisses de cotisations parce qu'elles ne rapportent rien à la productivité, rien à l'emploi. D'accord. 4 milliards d'euros.
Okay.
Vous avez déjà 11 milliards d'euros. Donc, c'est ça la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas voulu parler de financement autre que punir les Français. Est-ce que oui ou non, les employeurs n'ont pas une part de responsabilité dans la protection sociale? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de la protection sociale? Oui.
Mais vous savez, la plupart des employeurs en France, c'est des petites et des moyennes entreprises. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils souffrent aussi, ces employeurs. Encore une fois, on se focalise tout le temps sur le CAC 40 et les grandes entreprises. Mais c'est pas la majorité des entreprises en France. Et aujourd'hui, si vous dites à des petits patrons qu'il va falloir encore augmenter leurs cotisations, franchement, la plupart d'entre eux, ils vont mettre la clé sous la porte. Ils ont déjà du mal à s'en sortir.
Vous leur dites aussi aujourd'hui, vous allez garder vos salariés jusqu'à 64 ans, ils vous répondent qu'ils peuvent pas le faire. Et donc, vous voyez, c'est là la difficulté. Et donc, on a de quoi discuter avec les employeurs.
Alors, restez avec nous, Dominique Corona, c'est très intéressant, parce qu'on a Martin qui nous appelle d'Aubusson, dans la Creuse. Martin, il est employeur, il est restaurateur. Bonjour, Martin.
Bonjour, Denis.
Oh, c'est Estelle, moi, mais c'est pas grave, vous pouvez parler, non, il faut écouter. Martin, est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Tiens, allez, pour ne pas augmenter la durée du temps de travail, on n'a qu'à augmenter les cotisations des employeurs. Est-ce que vous seriez prêt à payer un petit peu plus pour que on puisse tous partir à la retraite à 62 ans?
J'ai déjà entendu des conneries, mais alors celle-là, franchement, moi, j'en ai marre. Je reviens à la question principale de votre sujet, si c'est un succès ou si c'est un échec. C'est aucun des deux, c'est juste une connerie monumentale.
C'est-à-dire
parce que en France, on est quand même, je pense qu'on doit être pratiquement les seuls d'Europe actuellement à avoir une retraite
je vous coupe la parole. Non, on n'est pas les seuls à partir à 62 ans. Il y a beaucoup de pays qui est même ont un départ à 60 ans. Et à chaque fois on cite la Suède, l'Allemagne, l'Angleterre. Je vous rappelle qu'il y a 27 L'Espagne, pays dans l'Union européenne.
L'Italie.
Il y en a 27.
Cite-moi tes pays qui partent à 60 ans.
La Roumanie, l'Autriche.
D'accord.
La Lettonie, l'Estonie, l'Lituanie.
C'est vrai que c'est des pays qu'on cite toujours en exemple.
Ah non, mais si on me dit la majorité des pays européens.
Excuse-moi, mais toi qui es toujours en train de parler des pays nordiques.
Alors attendez, parlons-en des pays nordiques. Parlons-en de la réforme qui maintenant est critiquée par le principal promoteur de la réforme en Suède.
C'est
déjà,
premier
élément. Attends. L'âge pivot en France est de 62 ans. Tu l'as rappelé, Estelle, l'âge moyen de départ à la retraite est 63,8.
Oui.
C'est vrai. En Allemagne, l'âge pivot est de 65 ans. Mm-hmm. L'âge moyen de départ en retraite est de 64 ans. Mm-hmm. Les Allemands partent avec une décote à chaque fois.
C'est ça le problème, exactement.
Les Français, aujourd'hui, à l'heure actuelle, partent avec une surcote, une majoration à chaque fois. Ce qu'on dit aux Français avec l'actuelle réforme qui est proposée actuellement par le gouvernement, c'est qu'on va partir à 64 ans, on va travailler plus longtemps sans surcote, avec une minoration de sa pension de retraite. Donc l'argument de dire tous les pays européens le font, c'est faux. Et ensuite, ces pays européens, il faut distinguer l'âge pivot et l'âge moyen. L'immense majorité des pays qui ont un âge pivot à 64 ans partent avant l'âge pivot, avec une décote de la pension de retraite. Donc l'argument, il faut arrêter de le sortir.
Alors, on vous laisse finir, Martin, allez-y.
enfin moi
voilà, il est coupé.
Je pars du principe que c'est en France où on est quand même les rois pour faire la grève, les rois pour travailler moins. C'est toujours
on travaille
les...
pas moins.
On travaille pas moins et on est plus productif.
On a une meilleure productivité que les autres.
Je suis désolé, mais enfin moi je vois dans mon métier l'époque. Alors bon, nous on fait les choses correctement. Ça oui. C'est la première base.
Vous êtes restaurateur, hein, je vous rappelle.
Voilà, les cuisiniers qui font en général des heures sup, nous on les paye, on les fait récupérer. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, bon, je suis quand même pas bien vieux. J'ai 33 ans. Je me souviens qu'il y a quelques années, quand j'allais travailler, moi je comptais pas mes heures. Je travaillais, je faisais du 80 heures semaine facile.
Oui, mais la période, elle a changé, Martin, et nos parents aussi, et on les voyait pas le week-end, et on les voyait pas le soir. Et là, malheureusement pour vous, hein, parce que j'imagine que vous avez des problèmes de recrutement comme la plupart des restaurateurs, mais la période, elle a changé. Et en revanche, elle a changé dans tous les pays. Tous les pays aujourd'hui ont des problèmes de recrutement. On appelle ça la grande démission aux États-Unis, notamment. Et donc voilà, c'est juste la fin d'une époque. Mais en tout cas, on a bien compris, Martin, que vous, ça vous énervait. Ces mouvements sociaux, cette mobilisation hier en France. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Tiens, cette mobilisation dans la rue hier a-t-elle été un succès ou un échec? Et puis vous avez des messages, Rémi.
Mais c'est un succès pour 65% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux. Pas mal de messages assez contradictoires. Il y en a qui nous disent que la mobilisation a été historique et que forcément le gouvernement minore l'ampleur de cette mobilisation, alors que d'autres nous disent que hier ils ont pu aller travailler presque comme d'ordinaire et que la France n'était absolument pas à l'arrêt.
C'était plus compliqué ce matin avec plus de 500 km de bouchons, ce qui est un record en France.